Passion lire, la chronique littéraire de Gilles Labouroir. Bonjour, voici quelques minutes de littérature que je partage avec vous. Quand je pense à tous les livres qu'il me reste à lire, j'ai la certitude d'être encore heureux, disait Jules Renard. Aujourd'hui, à l'ami qui ne m'a pas sauvé la vie, d'Hervé Guibert. Dans cette trilogie autobiographique, parue en 1990 chez Gallimard, consacrée au sida, Hervé Guibert raconte son existence depuis qu'il a été contaminé par le virus, les progrès insidieux de la maladie, le cruel espoir et la déception causée par les promesses d'un ami. Sur le mode de l'autofiction, l'auteur raconte la maladie de son ami, le philosophe et historien Michel Foucault, 1926-1984. Au-delà d'un témoignage poignant et dramatique sur le sida, l'amitié et la mort, ce roman frappe par la force et la beauté de son écriture, dans une évidente violence contenue. Lui qui avait toujours été attiré, fasciné par la mort, lui qui avait toujours voulu jouer avec elle, s'en approcher au plus près, en filmer la réplique, était en train de tout faire pour la repousser au maximum. Il y avait quelque chose de combatif à vaincre chaque jour, chaque heure qui passait. Écrire, écrire, écrire. Hervé Guibert introduit aussi dans son univers romanesque la révélation de son état, sa déchéance physique et l'approche de sa mort. Écrit et publié à l'époque où l'épidémie de sida faisait de très nombreuses victimes, en l'absence de traitement efficace, ce livre a eu un grand retentissement. Il peut être considéré comme un chef-d'œuvre de la littérature contemporaine. On peut reconnaître des personnalités de l'époque, comme Isabelle Adjani, le nom de Marine en référence à la chanson « Pull Marine », interprétée par Isabelle Adjani, sempiternellement cachée derrière ses lunettes noires. On trouve aussi Daniel Defer, compagnon de Michel Foucault, qui créera, à la mort du philosophe, l'association Aide. Mais aussi Thierry Jounot, atteint du sida également et qui mourra peu après Hervé Guibert le 14 juillet 1992, ses deux enfants, et la compagne d'Hervé Guibert, Christine, qui l'épousera le 15 juin 1989, c'était un mariage d'amour et de raison. Hervé Guibert est né le 14 décembre 1955 à Saint-Cloud, dans une famille parisienne de la classe moyenne. Son père est vétérinaire d'État et inspecteur des services vétérinaires. Il a une sœur, Dominique, qui est son aînée de 5 ans. Après une éducation scolaire dans le 14e arrondissement de Paris, il poursuit des études secondaires à La Rochelle. Revenu à Paris en 1973, il échoue au concours d'entrée de l'IDEC à 18 ans, l'Institut d'études cinématographiques. Hervé Guibert a grandi au sein d'une famille qu'il a très tôt voulu fuir. Les arts lui ont servi d'échappatoire, la littérature d'abord, la photographie ensuite. Il a été découvert par l'autrice Régine Desforges et s'est amusé à photographier ses amis, parmi eux le photographe Henri Cartier-Bresson. La photographie était ce jeu que n'était pas l'écriture. Son objectif mettait à nu ses sujets. Guibert reproduit ce même mécanisme dans son travail d'écrivain. Le sujet, c'est lui-même. Proche du photographe Hans Georg Berger depuis 1978, il séjourne à plusieurs reprises dans sa résidence de Santa Caterina sur l'île d'Elbe, où il écrit plusieurs de ses livres et se laisse photographier. Un séjour à la Villa Médicis de 1987 à 1989, en même temps que Mathieu Lindon, inspire son roman L'Incognito. Mathieu Lindon racontera à son tour ses années romaines dans son livre Hervélino, paru en 2021. En 1990, Hervé Guibert révèle sa séropositivité dans « À l'ami qui ne m'a pas sauvé la vie ». Ce roman autobiographique le fait donc connaître d'un large public. Il inaugure une trilogie comprenant « Protocole compassionnel » et « L'homme au chapeau rouge ». Il décède le 27 décembre 1993 à l'âge de 36 ans. Il est enterré dans un cimetière, Rio Helba, sur la rive orientale de l'île d'Elbe. En sa mémoire, une stèle cubique portant son nom est érigée dans le jardin du souvenir, à proximité de l'ermitage de Santa Caterina. Toutefois, je restais le plus hésitant sur sa démarche. Non que je n'avais pas une confiance absolue en Bill, que je craignais de voir bouleversé par un nouveau pacte avec le sort de cet état progressif, plutôt apaisant en définitive, de mort inéluctable. Jules, à un moment où il ne croyait pas que nous étions infectés, m'avait dit que le sida était une maladie merveilleuse. Et c'est vrai que je découvrais quelque chose de suave et d'ébloui dans son atrocité. C'était certes une maladie inexorable, mais elle n'était pas foudroyante. C'était une maladie à palier, un très long escalier qui menait assurément à la mort, mais dont chaque marche représentait un apprentissage sans pareil. C'était une maladie qui donnait le temps de mourir, et qui donnait à la mort le temps de vivre, le temps de découvrir le temps, et de découvrir enfin la vie. C'était en quelque sorte une géniale invention moderne que nous avaient transmis ces singes verts d'Afrique. Et le malheur, une fois qu'on était plongé dedans, était beaucoup plus vivable que son pressentiment, beaucoup moins cruel en définitive que ce qu'on aurait cru. Si la vie n'était que le pressentiment de la mort, en nous torturant sans relâche quant à l'incertitude de son échéance, le sida, en fixant un terme certifié à notre vie, 6 ans de séropositivité, plus 2 ans dans le meilleur des cas avec la ZT, ou quelques mois sans, faisaient de nous des hommes pleinement conscients de leur vie, nous délivrer de notre ignorance. J'ai eu le sida pendant 3 mois. Plus exactement, j'ai cru pendant 3 mois que j'étais condamné par cette maladie mortelle qu'on appelle le sida. Or, je ne me faisais plus pas d'idée. J'étais réellement atteint. Le test qui s'était avéré positif en témoignait, ainsi que des analyses qui avaient démontré que mon sang amorçait un processus de faillite. Mais au bout de 3 mois, un hasard extraordinaire me fit croire et me donna quasiment l'assurance que je pourrais échapper à cette maladie que tout le monde donnait encore pour incurable. De même que je n'avais avoué à personne, sauf aux amis qui se comptent sur les doigts d'une main, que j'étais condamné. Je n'avouais à personne, sauf à ces quelques amis, que j'allais m'en tirer, que je serais, par ce hasard extraordinaire, un des premiers survivants au monde de cette maladie inexorable. C'était la chronique littéraire de Gilles Labouroir. À bientôt.